Yes, les sept visages de Jésus. Nous sommes déjà rendus au septième et dernier visage. Je trouve que ça passait vite. Bonjour à chacun, chacune d'entre vous, et bonjour à vous qui nous suivez sur Internet. J'aimerais deux choses, en fait trois, plusieurs choses en fait. La première, est-ce qu'on peut mettre de l'oxygène, on a parlé d'oxygène, s'il vous plaît, dans la pièce. Si quelqu'un peut ouvrir une ou deux fenêtres. La deuxième, nous avons commencé cette série en prenant la Sainte Cène et nous allons la terminer en prenant la Sainte Cène. J'aimerais, on va la prendre à la fin, mais est-ce qu'il y aurait quatre volontaires qui pourraient la distribuer? Simplement levez vos mains, s'il vous plaît, s'il y a quatre personnes qui fréquentent régulièrement l'Église et qui croient que Jésus est vraiment le Seigneur. Donc j'ai trois. Alors, levez vos mains encore une fois. Alors, un, deux, trois, quatre. Parfait. Vous vous rappelez que c'est vous. Donc à la fin, merci de venir nous aider à venir distribuer la Sainte Cène. Un gros merci pour la super belle soirée que nous avons eue hier soir. C'était vraiment magnifique. J'ai tellement aimé. Il me semble que j'aurais continué ça pendant toute la nuit. Entre la soirée d'hier, les chants de ce matin et les prières que j'ai entendues, sérieusement, je pourrais aller m'asseoir et on pourrait retourner prendre un thé café. Non, parce que je veux dire, tout est dit, tout est acquis, entre guillemets, rien n'est jamais vraiment acquis, mais on sent qu'il y a une passion pour Jésus, il n'y aurait pas besoin d'en dire beaucoup plus, mais on va quand même aller jusqu'à la fin de cette série-là. Et comme vous le savez, nos enfants, vos enfants ont participé aussi, toutes les tranches d'âge confondues ont participé aux sept visages de Jésus. Et voici cinq photos, donc vous allez le voir. Cinq photos qui relatent un petit peu voilà les quelques jeunes qui bricolaient. Là, ils étaient en train de travailler sur le CEP, si je ne me trompe. La prochaine diapo, la porte. La suivante, la lumière. Et encore la lumière. Donc, ce n'est que quelques exemples de ce qui a été fait durant ces semaines. Et sûrement qu'en tant que parent, vous avez dû en entendre parler en rentrant à la maison. Donc, dernier, et voilà, ça c'est la dernière effectivement, où on voit une grille avec une grille de mots avec Je suis le cep, la vigne. Donc, le message de la semaine passée que nous avons vu était Je suis la connexion, donc je suis ce cep, je suis cet oxygène, sans moi vous ne pouvez rien faire. Maintenant, j'aimerais que nous puissions, dans les prochaines minutes, j'aimerais vous présenter en fait les sept visages de Jésus en mode croquis. Donc, la première diapo. La prochaine encore, voilà celle-ci, vous avez la légende en haut sur votre gauche. Pour ceux qui sont sur internet, ça va être difficile de suivre, on va regarder si on arrive à vous faire parvenir les visuels et je vais essayer d'être le plus explicite possible. Donc vous avez devant vous un cercle avec sept points qui représentent les sept visages de Jésus que nous avons ou nous allons terminer aujourd'hui. Et le premier visage était évidemment, prochaine diapo, le premier visage, on a parlé d'un ce cercle représente la sphère de notre univers, la sphère de notre humanité, cette sphère où il n'y avait pas de vie, cette sphère où il y avait la mort, cette sphère sans espoir, sans issue, mais Dieu a créé une brèche, une porte. Et en introduisant la présence de son fils Jésus, on voit la prochaine diapo, et boum, on arrive dans le deuxième visage de Jésus qui était « Je suis la lumière », c'est la lumière qui jaillit dans les ténèbres, donc il y a une brèche qui est créée dans notre humanité. Et ce deuxième visage est aussi, ou rien d'autre, est aussi, il fait complètement écho à notre saison actuelle de Noël. C'est le message de Noël, car un enfant nous est né, boah, et la lumière jaillit. On se rappelle tous et nous connaissons tous ce verset dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, quand il dit « Au commencement était celui qui est la parole, il était avec Dieu ». Au verset 4, il dit « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes ». Cette vie était la lumière des hommes. Notez que c'est cette vie qui était la lumière des hommes. Ce n'est pas cette lumière qui était la lumière, la vie des hommes. Autrement dit, il est bien question, il n'est pas question d'une lumière cosmique et impersonnelle, mais bien d'une personne qui éclaire. En elle était la vie et cette vie était la lumière. Et c'est important de ne pas confondre les choses. Parce que parfois, on va dire, ben, ouh, la lumière, et puis c'est comme, je crois en un Dieu de lumière, un Dieu d'énergie. Non, c'est pas la lumière qui amène la vie, c'est la vie, la présence de Christ qui amène la lumière dans ta vie. C'est complètement différent. Par contre, c'est intéressant, prenez ceci en note pour la toute fin du message, où il y a quand même une association entre la vie et la lumière et la vie. Ça, c'était le deuxième visage. On arrive au troisième où on réalise justement, c'est une personne. Troisième visage, le bon berger. Et c'est là qu'on a vu que c'est le bon berger, une personne. Le seul visage qui incarne une personne et non un objet, une énergie ou quelque chose, ou un exemple, une structure. Il est le bon berger. Il n'est pas juste le berger. Il est le bon berger. Précision, bon ne voulant pas dire le gentil berger. Il ne faut pas confondre. Il est le bon berger, ça ne veut pas dire c'était, il est gentil. Dieu en tant que bon berger ou Jésus en tant que bon berger n'est pas ce gentil personnage qui dit oui à tout. Il est gentil Jésus. Non, il est le bon berger. Et on a vu, petit rappel rapidement, on reste encore sur cette diapo-là, on a vu que justement il a cette protection, et on a vu quatre aspects de ce berger, il est ce berger protecteur. On l'a chanté. Et parfois, comme j'aime le dire, j'aime bien dire l'Éternel est mon berger, mais il y a des moments dans ma vie, je dis l'Éternel est mon guerrier. Il est mon protecteur, il est celui qui se lève et qui parfois attaque, prend les devants. Il dresse une table devant mes adversaires. C'est un berger qui parfois a besoin d'attaquer. Et même dans le ministère pastoral physique, il y a des moments, moi je crois avoir reçu un appel de berger, et plus souvent qu'autrement je suis un berger, mais il y a des moments où je suis un berger allemand. Où il y a des moments où il faut sortir les crocs pour protéger les personnes que Dieu nous confie. Contre les divisions, les dissensions, la confusion, les murmures, les critiques, tout ce qui vient amener la mort dans le corps, eh bien, des fois, en tant que berger, on est aussi appelé, en tant que pasteur physique humain, à être des bergers allemands. Stop, ça suffit. Tu ne feras pas du mal à ceux et celles qui appartiennent aux enfants de Dieu. Et Dieu est ce berger protecteur. On a vu, il est ce berger sentinelle. Il l'anticipe. Il est ce berger médecin. Il l'apaise. Il est ce berger guide qui est attentionné, qui nous conduit. Et ce berger-là nous conduit sur le chemin au point 4. Un chemin qui, on a chanté justement qu'un jour nous allons, et nous sommes dans ce message, « Je suis la résurrection, je suis la destination. » Mais avant d'arriver dans la présence parfaite de Dieu, bien nous avons une vie à vivre ici-bas avec des hauts et des bas, avec des moments de platitude, avec des moments d'émotion incroyables, des épreuves et des belles choses. Et il est encore ce berger, autant dans la vallée de l'ombre de la mort que dans les sommets ensoleillés. Il est ce berger. Il est ce berger. Et durant ce chemin, ce cheminement de vie, eh bien, il y a des moments où on perd nos repères, où je veux dire, il n'y a plus de signalisation, mais notre repère absolu demeure dans ce Jésus qui est le chemin. Je regarde directement devant moi et je peux marcher avec assurance. Et pendant cette marche sur la terre, eh bien, nous avons besoin d'être approvisionnés. On arrive au point 5 où on a vu que Jésus est la provision, il est notre pain. Ce Jésus qui est devenu notre provision quotidienne en mourant à la croix pour nos péchés. Il se livre lui-même. Il fallait que quelqu'un meure pour que tu vives, pour que je vive. Et de sa mort découle sa vie. Il fallait qu'il meure pour que ceux qui placent leur foi en lui vivent. J'ai envie de dire que le sacrifice de Christ nous offre le bénéfice de son esprit. Le sacrifice de Christ, on pourrait le dire autrement, le sang de Jésus libère le souffle de la vie. Cette goutte de sang s'est transformée en goutte d'eau de vie. Je suis le cep. Par la suite, au point 6, sixième visage. Je suis le cep, cette goutte de sang qui amène l'oxygène. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, sans sa vie, sans la sève de son esprit, nous ne pouvons rien faire. Et là, on arrive aujourd'hui. Et de cette vie, de sa mort découle la vie, de cette vie découle un fruit abondant. Fruit abondance, caractère en don, en toutes sortes de choses, et le fruit de la présence de Dieu qui est dans nos vies. Mais en attendant, là on arrive au septième, je suis la résurrection, nous allons regarder à Jean chapitre 11, versets 17 à 27, je suis la résurrection, on a une vie à vivre avant de passer par la résurrection. Mais heureusement que nous sommes attachés au cep qui nous donne cet oxygène dont nous avons besoin pour tous les événements de notre vie. On a besoin de saisir et se rappeler plus que jamais que la résurrection est la clé de voûte du christianisme. Enlève la doctrine ou la théologie de la résurrection et le christianisme s'effondre totalement. Vous pouvez aller voir dans Jean, pas Jean, mais 1 Corinthiens chapitre 15. Même au verset 19, il va dire « Ceux qui espèrent en Jésus seulement ici-bas sont les plus malheureux des hommes. » Voulant dire par là que Jésus ne vit pas seulement ici, mais heureusement qu'on a une espérance qui est au-delà de cette vie. Mais il y a un équilibre à voir, et c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. La résurrection est la clé de voûte du christianisme. C'est ce qui fait notre joie, c'est pour ça qu'on tape des mains, c'est pour ça qu'on est heureux, c'est pour ça que yes, c'est de la vie. On ne célèbre pas un Dieu qui est mort. Alors Jean, chapitre 11, verset 17, nous arrivons. À son arrivée, à partir du verset 17, à son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. « Oh, je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. » On va s'arrêter là. Il y a une scène qui est vraiment intéressante, là. Si tu avais été là, mon frère, il serait encore en vie. Je sais que tu peux demander n'importe quoi au Père, puis il va te l'accorder. Marthe, ton frère va revenir à la vie. Oh, ouais, je sais bien, je sais tout ça. Je sais qu'il va revenir à la vie lors de la résurrection des morts. Et regardez ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. On arrive au prochain graphique. En haut, sur votre droite, il y a un petit oiseau. Hein? Au point 1. Marie, là. Marthe, pardon. Marthe, ici, elle, quand Jésus lui dit « Ton frère va revenir à la vie », dans la tête de Marthe, c'est « Oui, il va revenir à la vie quand j'aurai terminé tout mon séjour, je ne sais pas combien de temps elle a vécu, puis que le grand jour de la résurrection générale va sonner. Là, oui, il va revenir comme l'oiseau que vous avez devant vous, en haut, point 1. Oui, je sais qu'un jour, mon frère va être cet oiseau qui revient à la vie. » En fait, à ce moment-là, Marthe est en train d'adhérer à la vérité dogmatique, à un principe théologique, à la vérité biblique qui dit qu'un jour nous ressusciterons. Et ce n'est pas mauvais. Mais regardez maintenant ce qui est intéressant. Regardez ce que Jésus va faire. Regardez qu'est-ce que Jésus va lui répondre et qu'est-ce qu'il va faire. En parlant d'un dogme, on parle d'une affirmation qui est absolue, fondamentale, incontestable. Donc elle croit à cette vérité qui est absolue, que oui, la résurrection des morts existe, je l'ai dit, c'est la clé de voûte du christianisme. Nous croyons tous ici, ou presque, peut-être pas tous, je ne voudrais pas prendre pour acquis, mais nous sommes nombreux à croire que lorsqu'on va mourir, on va ressusciter. On a perdu des personnes chères peut-être dans la dernière année, et puis on est dans la tristesse et le deuil, mais notre réconfort, c'est qu'on va les retrouver à la résurrection des justes, à la résurrection des morts. Et on est tous avec cette vérité qui est dogmatique, qui est théologique, qui est profondément biblique. Mais Jésus amène l'attention de Marthe complètement ailleurs. Prochain verset. Voici sa réponse. « Je suis la résurrection et la vie. » Moi, je le dis comme ça parce que j'ai tellement réalisé, ça m'a fracassé. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus, celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. » Ce que Jésus est en train de faire, c'est qu'il est en train de ramener tout le focus sur lui. Il est en train de dire à Marthe, « C'est bien, ta théologie, elle est bonne, elle est juste. » Elle est vraie, elle va se réaliser, mais plus que ça, il ramène toute l'attention de Marthe sur sa vie. Autrement dit, Marthe, prochaine diapo, ici en fait, l'oiseau, elle se voyait ici, l'oiseau qui est tout en haut, mais Jésus est en train de lui dire, déjà maintenant ici, là, à la 7e étape, je suis la résurrection, déjà entre 7 et ta mort, ta vie commence ici. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que je suis la résurrection, tu as raison, et la vie. Je ne suis pas seulement la résurrection. C'est bien que tu croyes à un principe. Marthe est appelée à s'attacher à Jésus lui-même, non pas à une religion, non pas à un principe, non pas à une institution, non pas à une doctrine, même si toutes ces choses-là peuvent être bonnes, mais à sa personne. Et je prie que chacun et chacune d'entre nous qui écoutons ce message par Internet ou ici, puissions plus que jamais, à la fin de cette série, tomber en amour avec Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et si l'on ne perd pas de vue que Jésus est le chemin, comme il l'a déclaré, nous pouvons dire que Jésus, en toute tranquillité, Jésus est en train de dire, est en train de déclarer, « Je suis à la fois la destination et le chemin. » Je suis à la fois la destination et le chemin. Alors c'est vrai que nous sommes le plus malheureux des hommes si notre espérance se résume à ici-bas. Mais il y a deux extrêmes. Il y a ceux dont leur espérance est uniquement là-bas, ne vivent pas comme si Jésus avait déjà fait quelque chose. Puis il y a ceux qui vivent en ben, Jésus ici, puis ont perdu de vue qu'un jour, on va ressusciter. Et en ressuscitant Lazare, Jésus démontre trois choses, en tout cas trois choses. En ressuscitant Lazare, vous lirez plus tard le récit, il va dire « Lazare, sort, ça fait quatre jours, les bandelettes, ça sent la mort, là, ça pue, là, on peut dire ça pue la mort, ça sent la mort, là. Lazare, sort !» Et Lazare va sortir. Et en ressuscitant Lazare, Jésus est en train de démontrer trois choses au moins. La première, il démontre sa capacité à ressusciter les morts. On a tous entendu dire, et moi j'ai même souvent dit, avant d'avoir cette conviction que Jésus est vraiment vivant, personne n'est allé au ciel, on ne sait pas si vraiment il y a une vie après la mort, personne n'est revenu pour nous le dire. C'est vrai. Par contre, on sait qu'il a la puissance de ressusciter des morts. Il l'a démontré. Aujourd'hui, on parle de lui encore. Donc, s'il a la capacité de ressusciter les morts, moi, je pense qu'il y a quelque chose après la mort ici-bas ou la vie d'ici-bas. Ça dépend dans quel sens on le regarde. Donc, il est en train de montrer à tout le monde que ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas juste une dogmatique, ce n'est pas juste une théologie. J'ai vraiment cette capacité de ressusciter les morts. Ensuite, il démontre une deuxième chose. Il est en train de démontrer que sa puissance n'est pas limitée. Parce que pendant qu'ils sont en train de discuter, il y a cet échange, il y a des gens autour, ses contemporains vont dire, franchement, Jésus, lui qui a guéri des aveugles, vous lirez le texte, lui qui a guéri des aveugles, ne pouvait-il pas épargner son ami de la mort? Fait qu'en fait, ils sont en train de... Même Marthe, elle est rendue de l'autre côté, plus loin. Ils sont en train de dire... Qu'il guérisse des malades, il peut, mais s'il avait agi avant, il aurait pu éviter qu'il meure. C'est comme si dans leur tête, à eux, c'est pas comme si c'est ça. Dans la tête des contemporains de Jésus, la puissance de Jésus se limite, voilà, guérir les malades, rendre la vie aux aveugles, les paralytiques, c'est déjà énorme, mais ça se limite à ça. Et Jésus est en train de dire, non seulement je suis capable de ressusciter des morts, je suis en train de démontrer que ma puissance n'a pas de limite. Ma puissance n'a pas de limite. Jésus est en train de dire, en ressuscitant Lazare, est en train de dire, moi, qu'il s'agisse d'un aveugle ou d'un mort, ça ne change rien. Qu'il s'agisse d'une allergie ou d'une migraine, c'est la même puissance qui est en intervention. Qu'il s'agisse d'une grippe ou d'un cancer, c'est la même puissance parce que je suis la résurrection et je suis la vie. Et si quatre jours après, il y a quelqu'un qui meurt, si je décide de dire Lazare sort, parce que je suis la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et s'il est le chemin, nous l'avons vu, c'est parce qu'il est vrai, vérité et vie. Il est vraiment vivant. Parce qu'il est vraiment vivant, Jésus est le chemin sur lequel je peux marcher au quotidien et m'attendre à lui. Vous me connaissez assez pour savoir que je fais régulièrement l'équilibre entre le fait que ce n'est pas toutes nos prières qui sont répondues avec miracle, etc. Mais j'aimerais ce matin dire que Dieu est le Dieu du miracle quand même aussi. Que le Dieu que nous prêchons, que le Dieu que nous louons, que le Dieu que nous prions, que le Dieu que nous servons au quotidien est le Dieu de la résurrection et de la vie. Et je prie que la vie de son esprit aujourd'hui puisse toucher ton cœur, que tu sois à travers les ondes, peu importe, aux quatre coins de la planète ou ici dans ce lieu, que ce soit pour ma vie, dans ta vie, je prie que le miracle de la puissance de Dieu prenne place dans ta vie, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, je prie que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, parce qu'il est la vie. Troisième chose, j'avais dit trois. Il est en train, en ressuscitant Lazare, en train de nous dire, de démontrer que sa vie débute déjà ici-bas. Nous sommes nombreux ici à pouvoir prendre le micro et dire, voici le miracle que Jésus a fait pour moi. Mais on a même des cinquièmes dimanches pour ça. Voici le miracle que Jésus a fait pour moi. Parce que la manifestation de Jésus n'attend pas la résurrection finale. Elle commence déjà ici-bas. Yes! Et alors que tout semblait terminé, tout ne fait que commencer. Oh. Pour ceux qui ont vu le clip, je vous l'ai dit, préparez-vous. Ce n'est pas parce qu'il fait nuit que c'est fini. Regardez, panorama général. L'univers était dans le chaos, dans la Genèse, mais Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Tout semblait foutu, fini, mais Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et la création se manifeste. L'humanité semblait enfermée sous la loi, sous la condamnation, dans le péché, mais notre liberté était sur le point de débuter en Jésus-Christ, nous l'avons vu. Entre Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, il y a 400 ans de silence où Dieu ne se manifeste pas, où Dieu ne parle pas, où Dieu n'agit pas, où Dieu n'intervient pas. Il y a 400 années, il y en a des nouvel ans là, il y a 400 nouvel ans, 400 Noël, bah, à cette époque-là, Noël n'était pas encore là, mais 400 années de silence. Il y en a des générations qui passent. Et là, on aurait pu dire, d'ailleurs, à tel point que même Zacharie, le prophète, le sacrificateur, il va être même incrédule, il va être frappé de mutisme. 400 ans de silence, on aurait pu dire, c'est fini. Et pourtant, alors que tout le monde pouvait penser que c'était terminé, après 400 années, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a de la place pour le découragement? Après 400 ans, t'as beau être persévérant, je pense qu'il y a de la place pour le découragement. On pensait que c'était fini, mais la parole était sur le point de retentir et tout, au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu et que la lumière soit. Et on arrive au point 2, la naissance de Jésus. Tout semblait fini. Jésus meurt sur la croix et là, les démons de l'enfer, les peuples de la terre regardent ça et disent c'est fini. Et en fait, personne ne savait, mais à ce moment-là, Jésus était en train de signer le lancement d'une nouvelle ère, une ère résurrectionnelle. Il dit, mais il est fou ce pasteur. Oui, j'assume. Tout le monde pensait que c'était fini, mais alors que tout le monde pensait que c'était fini, il est en train de signer une nouvelle ère, une ère résurrectionnelle, une ère de résilience, une ère de seconde chance, une ère de tu peux recommencer à zéro, une ère de tout est possible, pas tout est facile, une ère de j'ouvre le ciel, une ère de je fais que commencer parce que votre vie ici-bas est tellement courte à côté de ce que je vous réserve parce que j'ai une vie avec vous que je veux passer dans l'éternité. Waouh! Ce n'est pas parce qu'il fait nuit. Et toi, aujourd'hui, tu termines peut-être cette année avec des épreuves aux multiples visages, alors qu'on a vu les 7 visages de Jésus. Toi, tu pourrais mettre les 45 et demi visages d'épreuves que tu as eues, et peut-être plus, durant cette année, et puis dire, mais peut-être les 365 visages de souffrance, d'épreuves, de déception. Tu dis, c'est fini, rien à faire. J'aimerais te rappeler, car ce n'est pas parce qu'il fait nuit que c'est terminé. Ce n'est pas parce que tu penses que tout est terminé que Dieu a dit son dernier mot. Et je prie que Dieu puisse parler, que le Seigneur puisse parler dans ta vie, parce que quand il parle, il crée des nouvelles choses. Waouh! Kaboum! Qui a dit que Dieu était un Dieu de religion? Plate à mourir. C'est la vie. Nous avons affaire à un Dieu qui a plus de suite dans les idées que tous les entrepreneurs de l'histoire réunis ensemble. Il y avait un plan. Il y a une suite dans les idées, là. C'est un entrepreneur, c'est le plus grand des architectes. C'est waouh. On continue. Verset 26. Il enchaîne après avoir dit justement qu'il est la résurrection de la vie. Il dit, « Et tout homme qui vit et croit en moi, et continue à parler à Marthe, ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Moi, je suis heureux de terminer cette année ensemble avec vous. Avec 5 personnes qui croient à cela. 5 personnes. Prochaine diapo. Oh, Michael Brodard, Andréa Bulabois, Sonia Bulabois, Amélie Taillebois, Julien Goyette. 5 personnes qui croient à cela. Que Jésus est la vérité. 5 personnes, alors qu'on termine cette année, on va la débuter avec 5 baptêmes. Le 12 janvier. On peut l'annoncer, je pense. Hein? On peut l'annoncer le 12 janvier. Est-ce qu'on peut vous annoncer que le 12 janvier, Michael va à l'église de Saint-Genis, il vient à la jeunesse du CEPL, et voilà, on est un peu entre deux. On a vu d'ailleurs Pasteur David hier, et alors qu'il est à l'église de Saint-Genis, le 12 janvier, on va célébrer 5 baptêmes avec l'église de Saint-Genis. Yes. On peut applaudir, je vois que... Oui, oui, merci, c'est lui qui fait ça. Parce qu'il y a un temps pour se réunir en tant qu'église locale, c'est normal, comme chaque famille, voilà. Mais il y a un temps aussi pour se réjouir pour le royaume. Et hier, pour moi, c'était une réjouissance avec le royaume. Il y avait des gens qui venaient du Réveil, qui venaient de Saint-Genis, qui venaient d'ailleurs, qui venaient pour la première fois, et il n'y avait pas de « nous sommes l'église du CEP », il n'y avait pas d'emphase plus que ce qu'il faut sur « c'est l'église du CEP, nous sommes ». Non, non, c'est ensemble, on se réjouit pour le royaume. On se réjouit parce qu'il est la résurrection et la vie. Et le 12 janvier, on va se réjouir parce que c'est le royaume, c'est l'amour de Dieu qui progresse dans les cœurs. Puis ce n'est pas une question d'étiquette, de ceci, de cela. Non, c'est juste on est des frères et des sœurs, puis on va avoir du fun. Crois-tu cela? Et ces cinq personnes croient cela. On va prendre la Sainte-Seine tantôt et tu peux prendre la Sainte-Seine. Alors je sais que certains préfèrent prendre la Sainte-Seine après le baptême, puis je respecte, c'est correct, c'est des convictions personnelles. Mais je veux juste te rappeler que ce n'est pas le baptême qui te sauve. Ce n'est pas le baptême qui te sauve. Tu vas te baptiser parce que tu es sauvé. Le baptême n'a aucune puissance en soi. Tu vas juste officialiser quelque chose qui a pris place dans ton cœur. That's it, c'est fini. À partir du moment où tu crois que Jésus est ton sauveur, bien, prends ce repas. Profite. Si tu ne veux pas, ben, tu as sûrement des raisons, et ça j'en suis pleinement conscient, et des raisons qui sont légitimes, qui te sont propres à toi, parce que c'est ton chemin à toi, on en a parlé. C'est correct. Mais je veux juste te dire, prive-toi pas si tu as envie. Parce que voilà, verset 26, c'est tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je vous pose la question. Prochaine diapo. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Est-ce que tu le crois? Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Pas qui vit, qui donne son offrande, qui vit, qui fait des bonnes œuvres à la banque alimentaire, qui vit, qui est un bon chrétien sur la route, qui vit, qui lit sa Bible trois fois par jour. Non, non, qui vit et croit. Qui vit et qui croit. Et Marthe va répondre. Marthe va répondre, verset 27, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois, alors crois en quoi? Crois, oui, mais crois en quoi? Je crois que tu es le Christ. » Le Christ, c'est l'élu, c'est le choisi, c'est le oin, l'élu. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » T'es en train de dire, je crois pas que tu es un homme comme les autres. Je crois pas que tu es un prophète parmi tant d'autres. Je crois pas que tu es un grand guérisseur, le meilleur guérisseur. Je crois que tu es le Christ. Le choisi, le Messie, l'élu. Tu es le Christ et je crois que tu es le Fils de Dieu. Wow. Celui qui devait venir dans le monde. Encore une fois, on est à Noël. J'aimerais inviter les quatre personnes qui ont levé leurs mains à venir me rejoindre pour distribuer les éléments et je vais terminer avec quelque chose alors que vous vous installez simplement. Je vais vous demander un peu de patience, mais ça ne devrait pas être long. Parce qu'il y a sept autres descriptions à propos de Dieu qui sont passées quasiment sous les radars pendant toute cette série. Il y a sept autres descriptions à propos de Dieu qui sont passées, pour ainsi dire, sous les radars durant toute cette série. Nous avons vu les sept visages de Jésus. Et les sept visages de Jésus nous dressent un portrait, permettez-moi le terme, un portrait robot de Dieu. Je dis robot parce que la Bible dit que c'est quand on va être dans sa présence qu'on va vraiment comprendre qui il est. Là, on ne comprend qu'en partie. Sept. Prochaine diapo. Regardez, au revoir, regardez en haut à droite la référence Jean chapitre 14, verset 9. Jésus va dire à Philippe et compagnie qui ne comprennent rien par rapport au fait qu'il va s'en aller, qu'ils veulent voir le Père, le Fils, etc. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et à travers les sept visages de Jésus, nous avons un portrait de Dieu. Premièrement, un en haut. Le fait qu'il ait amené, qu'il ait créé une brèche, une porte, Jésus est en train de nous donner un portrait d'un Dieu miséricordieux. La miséricorde, c'est la corde qui se lance dans la misère. Miséricordieux, c'est un classique, vous le connaissez, mais ça fait du bien de se le rappeler. Un Dieu miséricordieux. Deuxièmement, il nous dresse un portrait d'un Dieu qui est vivant. Rappelez-vous, lumière et vie. C'est un Dieu qui est vivant, qui est en mouvement, qui a la suite de les idées. 3. Dieu, le bon berger, il nous parle d'un Dieu qui est fidèle. Dieu n'est pas celui qui va te laisser tomber. Il n'est pas celui qui va te trahir. Il n'est pas celui qui va te rejeter, t'humilier, t'enfoncer, t'accuser, t'abuser. Non, ce n'est pas ce Dieu. C'est un Dieu qui est fidèle. Il va t'entourer par devant et par derrière jusqu'à ce que tu le rejoignes. Quatrièmement, le chemin. Dieu est un Dieu qui est saint. Car le chemin est étroit et resserré. Ce n'est pas un Dieu gentil. C'est sérieux. Oui, on est sauvé par grâce, mais le chemin est étroit et resserré. Ce sont les violents qui s'en emparent. Que celui que son œil ou sa main l'amène à chuter, qu'il le coupe, pas au sens littéral. Partez pas d'ici en vous amputant. Mais qu'il le rejette, qu'il fasse ce qui est nécessaire pour marcher pour Dieu parce qu'il y a un prix. C'est un chemin qui est resserré. Dieu est un Dieu sérieux, un Dieu qui est saint. Cinquièmement, Dieu est un Dieu qui est juste. Alors qu'il se donne en provision, il brille sa vie. Et combien de fois on entend pourquoi est-ce qu'il y a autant de morts et de Dieu est injuste. Il est où son amour? Dieu, elle est où la justice de Dieu? Et combien de fois est-ce que même dans nos vies on dit est-ce que Dieu est injuste? Et pourtant ce Dieu que nous considérons comme injuste, c'est ce même Dieu qui sacrifie injustement son propre Fils pour que je devienne justice en lui par ma foi. Il est juste. La justice de Dieu s'accomplit en Jésus, en Jésus sur la croix. Il est juste, il est puissant. Toute cette vie de l'esprit, c'est pas un Dieu qui est mort sur une croix. Jésus est en train de nous dire, le Dieu que je suis en train de vous parler est un Dieu qui est puissant. Et on termine avec le dernier, la résurrection, c'est un Dieu qui est rédempteur. On le chante, rédempteur du monde. Et là tout le monde dit, arrête de chanter, Pasteur Phil.
Ça arrive.
Ou bien continue, comme ça Jésus va revenir plus vite. Rédempteur du monde, Jésus, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent. Toi, l'agneau venu des cieux, Rédempteur du monde, pour nous crucifier, ton amour, ta grâce abonde. Ô glorieux ressuscité, merci notre Père, tu as donné ton Fils, tu fais briller ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, enfin, je verrai que Dieu, mon Seigneur, ta face sans fin, je le servirai. Portrait de Dieu. Comment ne pas l'aimer? Come on! Oh, ça suffit.